RMC.
Rebound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win. Bang!
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC, à télécharger sur rmc.fr, avec aujourd'hui une Dream Team composée de Alex Herbinet, Stephen Brun et Martin Bourdin. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Salut Pierrot.
On bat des records de téléchargement en ce moment. C'est la fin de saison qui approche. Je pense que les gens ont envie de basket. Les gens veulent du basket.
L'attrait des playoffs qui arrive.
Maintenant, il faut aussi rajouter des notes et des commentaires. Par exemple, les blagounettes de Stephen, vous aimez, vous n'aimez pas, vous laissez un commentaire.
Ah, parce que ça fait l'algorithme, c'est bien.
Je sais pas, il paraît qu'il faut.
Oui. Plus il y a de commentaires et plus il y a de commentaires vite, plus ta vidéo elle monte.
Très bien, bon, si tu veux, j'ai une idée pour
Si Fred Veil se s'énerve dans le quiz et que ça vous plaît, vous mettez
J'ai une idée pour provoquer les commentaires si tu veux.
N'hésite pas.
Non, bah, non. Pas.
C'est moyen chaud. C'est pas la peine non plus de créer la polémique. Hein. À partir de rien. Aujourd'hui, nous allons parler des Houston Rockets.
L'équipe
surprise de cette saison de NBA. Les Rockets sont-ils un candidat sérieux au titre ? Voilà, va falloir me dire vraiment si oui ou non, quand on est deuxième à l'Ouest, on est un candidat au titre. Est-ce que c'est plus fort que Denver, par exemple ? On va répondre à toutes ces questions. Shengun ou Green, qui est le go-to guy ou qui doit être le go-to guy de cette équipe ? Ça, c'est le deuxième débat. Et puis, à l'image de Dylan Brooks, vous avez parlé des Dirty Players dans la partie historique. On en connaît quelques-uns, peut-être que vous allez m'en trouver certains qu'on connaît moins. J'espère.
J'espère.
Le quiz est consacré exclusivement aux Houston Rockets.
Belle franchise.
Il y aura évidemment un blind test. Il n'y aura pas la question d'accord ou pas d'accord avec moi. Voilà, ah, je ne l'ai pas faite aujourd'hui.
Pas fait.
J'ai failli. Hein.
Vous ne la connaissez pas celle-là ?
Ah, moi, Martin, je l'ai fait découvert.
Je l'ai jamais fait moi encore.
En fait, Pierrot se pose une question dans sa tête et répond. Et après, il nous pose la même question. Et si on a la même réponse que lui, on a un point.
La même réflexion que Pierrot.
Exemple, est-ce que Yao Ming est un des 10 plus grands joueurs étrangers de l'histoire ? De la NBA.
Pierrot, il est là pour être d'accord ou pas d'accord
avec toi. Tu penses quoi ?
Ok. Il faut que je refasse la liste.
Non, mais là, tu me réponds.
Allez, comme ça, brûle pour point, non.
Mais t'aurais eu le point.
Okay.
C'est dommage parce qu'il n'y a pas la question. Allez, c'est parti pour un spécial Houston Rockets.
Houston, we have a problem.
That defense looks like a defense that could shut down anybody.
Jalen Green plays it hand to Torrey, 2-on-1 to Amen Thompson with the quick jump and dunk.
Dylan Brooks at one fade away and hits another one.
Steph still hasn't scored and he turns it over again.
Never in my life would I have anticipated Curry scoring only 3 points against a Rocket team.
Shengun at the high post. Thompson, beautiful slice from the baseline. Amen Thompson, that length, beautiful steal. Amen Thompson out to Dylan Brooks for three and he's got it.
Les Rockets, équipe surprise à l'Ouest, ils sont deuxième avec un bilan de 52 victoires, 27 défaites. Juste un œil sur le classement de l'an dernier, ils étaient pile poil à l'équilibre, 41 victoires, 41 défaites. Mais 11e de la conférence Ouest il y a un an, il y a un tout petit peu moins d'un an. Donc c'est une progression remarquable. En quelques mots, Martin, l'effet marquant de la saison des Rockets.
Bah, l'effet marquant, les gros faits marquants, ils sont assez récents finalement, notamment vendredi dernier, ils mettent fin à cette série de 11 victoires d'OKC. Et dans la foulée, dimanche, ils battent les Warriors en limitant Steph Curry à 3 petits points, alors que le numéro 30 des Warriors restait sur 3 matchs à plus de 30 points. D'ailleurs, contre les Warriors, c'était peut-être le plus gros match, le meilleur match de la saison des Rockets. On se souvient aussi de leur victoire à Boston, c'était fin janvier. Victoire de 2 petits points grâce à un game winner d'Amen Thompson. Cette semaine-là, ils avaient aussi battu 2 fois les Cavaliers. Ils finissent par battre Boston, donc les deux premières équipes de l'Est. Plus largement, ils finissent un peu la saison en boulet de canon. Les Rockets, après un mois de février cata, ils ont réussi à redresser la barre. Ils restent sur 15 victoires sur les 17 derniers matchs, dont une série de 9 victoires. Le petit problème, c'est que les défaites dans cette série, bah, c'est contre des potentiels adversaires directs en playoff, les Lakers et Denver. D'ailleurs, si on regarde contre les gros de l'Ouest, c'est simple, ils n'ont remporté aucune de leurs séries cette saison. 2 victoires, 3 défaites contre OKC, 1 victoire, 1 défaite contre Denver, 2 victoires, 3 défaites contre les Warriors, 1 victoire, 1 défaite contre les Lakers. Et contre les 5 autres membres du top 3 de chaque conférence, 7 victoires, 6 défaites pour les Rockets.
C'est un problème.
Il leur reste 3 matchs à jouer, Denver, les Lakers et les Clippers, donc à eux de voir s'ils ont les moyens de leurs ambitions, notamment sur ces 3 matchs-là.
Après, Martin a vu le côté négatif. Pour le côté positif des choses, je crois que c'est la seule équipe de NBA à avoir battu 2 fois OKC et 2 fois Cleveland aussi.
Si on se projette sur le tableau de play-off, donc il serait deuxième à l'Ouest et affronterait le vainqueur de Minnesota, Memphis pour le moment, hein, ça peut bouger. Voilà, il serait dans la moitié de tableau des Lakers et des Warriors. Alors, est-ce que c'est un véritable candidat au titre ? C'est une question qu'on pose beaucoup sur les équipes en forme. Pour Houston, on a un peu plus de mal à se projeter parce que cette équipe elle est toute fraîche, elle est toute neuve, Alex.
Ouais, bah c'est deuxième à l'Ouest, tu le disais, t'es forcément candidat de toute façon, puisqu'on arrive au play-off, il reste 3 matchs.
Est-ce que toi, tu les vois capables de sortir vainqueur de la conférence Ouest, par exemple, et battre les Celtics ou les Cavs en finale ?
Je pense que c'est trop jeune, c'est trop tôt. Qui va manquer ce facteur expérience contre les gros. Tu disais, ils sont possiblement dans la partie de tableau des Lakers ou des Warriors. J'ai l'impression, mais c'est qu'un feeling à eux de me faire mentir, qu'en play-off, ça va être un peu juste à cause de ce manque d'expérience. C'est la première fois depuis 2019-2020 qu'ils ont une saison en positif, quand il y avait encore James Harden. C'est la première fois depuis la bulle qu'ils font le premier tour des play-offs. Ils construisent quelque chose de beau, mais j'ai l'impression que ce sera encore un peu court face aux équipes d'expérience de l'Ouest cette saison.
Steve.
Écoute, moi, je les vois pas encore tout en haut, malgré cette belle saison régulière. On parlait de l'évolution. Il faut savoir qu'il y a deux ans, c'est une équipe avec Paul Silas à sa tête qui avait gagné 20 matchs seulement. Donc t'imagines la progression de passer de 20 matchs à quasiment gagner 55 ou 54 cette année. Maintenant, c'est une équipe qui, pour moi, en play-off, à quelques carences. On en reparlera d'ailleurs sur le Talk 2, à savoir qui est vraiment le go-to guy de cette équipe-là. C'est une équipe qui ne se passe pas bien le ballon. C'est une équipe qui n'est pas... C'est pas une équipe d'attaque, Houston. C'est une équipe qui fait partie des meilleures défenses de la ligue. C'est une équipe qui est pas très belle à voir jouer au basket. C'est une équipe qui, parfois, t'as des séquences un peu bloopers, hein, quand tu regardes les Rockets jouer. Mais c'est une équipe qui détruise les attaques adverses, parce que c'est une équipe qui a des défenseurs d'élite. Amen Thompson, Dylan Brooks, même Fred Van Vliet contre Steph Curry. Même si tu regardes la ligne de stats de Fred Van Vliet, qui joue 36 minutes, tu dis, attends, mais comment il faut jouer 36 minutes? La ligne de stats est catastrophique. Il faut regarder le match pour s'apercevoir qu'il y a quand même un taf énorme défensivement. Le problème, c'est que c'est une équipe qui se passe pas la balle. C'est une équipe qui est quasiment dernière aux passes décisives. C'est une équipe qui joue beaucoup de situations de transition et de 1 contre 1, et ils marquent beaucoup de paniers par des exploits individuels, que ce soit Thompson, Jalen Green, Fred Van Vliet, Alperen Şengün, qui met aussi beaucoup le ballon au sol. Et en play-off, quand tu te passes pas la balle et que tu es que sur du 1 contre 1 ou du duel, quand on connaît l'intensité, le curseur défensif qui monte en play-off, je suis pas sûr que ça soit suffisant. On m'a beaucoup parlé d'inexpérience des Rockets. Pour moi, je trouve qu'il y a des gens qui connaissent les playoffs, coaché par Ime Udoka, qui a fait une finale NBA avec Boston. Steven Adams a déjà fait des finales de conférence avec OKC. Dylan Brooks a fait des playoffs avec les Grizzlies. Fred VanVleet est champion NBA avec les Raptors. Donc il y a quand même des papas dans cette équipe-là pour entourer cette jeunesse. Mais contre les mecs qui ont, tu parles de Denver, tu parles de même des Warriors ou même des Lakers, ça me paraît un peu juste.
Steve, t'as beau avoir des papas, il y a un moment, si tu te passes pas la balle, tu vas pas d'un coup en claquant des doigts te mettre à avoir un jeu collectif huilé.
Mais c'est la philosophie d'Ime Udoka en fait. Même à Boston. Boston n'était pas une équipe qui était ultra collective. Bon, quand t'as Tatum, Brown et compagnie, c'est un peu plus facile. Mais c'est une équipe qui mise tout sur la défense et à un moment donné, il faut mettre des points.
Et le lien avec tout ça, c'est aussi le gros manque dans cette équipe. On a parlé de Fred VanVleet qui fait une bonne saison et qui est un peu un des papas de cette équipe. Mais pour moi, Fred VanVleet, c'est pas un vrai meneur qui va créer du jeu. C'est un arrière shooter qui peut jouer deuxième arrière. Il manque un créateur. Et je pense que ça va manquer en play-off. Je pense aussi qu'il va manquer en play-off. On l'a dit, c'est une grosse équipe défensive en saison régulière. Est-ce qu'elle va pouvoir monter encore le curseur comme les autres équipes vont le faire, comme d'autres équipes vont devoir le faire en play-off?
Je suis pas sûr qu'ils peuvent aller plus haut en termes de niveau de jeu.
C'est ça le problème. Et à mon avis, ça va plafonner assez vite. Et pour aller plus loin en play-off, ça va être un peu compliqué.
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on dit souvent que c'est la défense qui gagne en play-off ou qui gagne des titres. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir l'adapter face aux équipes?
Faut qu'ils montent le curseur.
Il y a les équipes qui vont monter d'un cran. Est-ce qu'elles sont encore capables de monter d'un cran? Pareil, j'ai du mal à y croire, moi, ça, mais à eux de nous le prouver le contraire.
Alors après, t'es quand même deuxième à l'Ouest. Qu'est-ce qui explique cette réussite-là? Il y a trop de déperdition chez les autres. Bon, on voit les Nuggets, ils ont déroulé des bas, par exemple.
C'est qu'ils ont gagné des matchs, ils sont très bons dans le Money Time. Ils ont gagné des matchs très serrés où ils savent à un moment donné faire la bascule du bon côté. Ils ne perdent pas contre les petites équipes. Parfois, ils leur mettent des énormes branlées sur cette série de 15 matchs sur les 17 dernières. Tu regardes que. Il y a des différences de style. Il y a des matchs contre les petits où ils mettent 140 pions, 136
quasiment
pions.
Quasiment 150 contre Phoenix. Ouais,
exactement, où ils détruisent les petites équipes. Et contre les grosses équipes, là, contre Orlando qui était dans un bon run, ils prennent que 84 points. C'est rare en NBA de prendre que 84 points. Ça ne perd pas contre les petits. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu accumules les victoires. Et de temps en temps, tu prends contre les gros et tu te retrouves là. Ils ont été réguliers toute la saison. Il y a eu un petit creux parce qu'il y a eu beaucoup de blessures à un moment donné dans cette équipe-là. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup de monde. Ça a coïncidé avec Jalen Green s'est blessé, Şengün s'est blessé,
Thompson s'est blessé,
Jabari Smith Jr. s'est blessé, Amen Thompson s'est blessé. Donc ils ont été plutôt réguliers, ils n'ont pas eu de séries catastrophiques et les matchs qu'ils devaient prendre absolument où ils étaient favoris, ils les ont pris.
Ça, je trouve, c'est un symbole quand même du step qu'ils ont passé cette année. Ils perdent plus contre les petits. Non. Contre les petites équipes, ils font le taf et ils montrent qu'ils sont supérieurs à eux.
Et ils ont réussi aussi à relever la tête. En février, tu l'as dit, ils ont fait une série un peu catastrophique. C'est aussi au moment où Memphis a eu un peu aussi cette série un peu compliquée. Memphis, ils sont descendus. Aujourd'hui, ils sont dans le play-in. Eux, ils ont réussi à relever la tête. Ça, c'est le côté positif. Le côté, bah, mentalement, on arrive à faire en sorte de sortir de cette spirale négative pour se relever. Après, voilà, est-ce qu'en play-off, ils arriveront à faire quelque chose ? Moi, ce qui m'inquiète aussi au niveau des play-offs sur les Rockets, c'est qu'à l'extérieur, ils ont quand même globalement beaucoup plus de mal que chez eux. Chez eux, ils sont sur un 29-11, 11 défaites seulement à Houston.
Meilleure équipe de la Ligue.
Ouais. 23 victoires, 16 défaites en déplacement. Ils n'ont pas forcément l'avantage du terrain, en tout cas sur tout le monde, puisqu'ils ne l'auront pas notamment sur OKC si jamais ils arrivent à aller en finale, les deux en finale de conférence. Ça me paraît un peu léger pour
après,
le moment.
Après, si c'est en finale de coupe,
la saison, elle est plus que réussie.
Moi, je les vois gagner un premier tour de play-off. Ouais, on est déjà dans une progression.
On est à peu près d'accord.
Logique. Ouais. S'ils se retrouvent avec OKC alors qu'ils n'ont pas l'avantage du terrain, je pense qu'ils seront très, très heureux.
Et ce sera beau. Même
mais on a vu, regarde, la densité de la conférence avant-hier qu'ils étaient capables de vraiment dominer les Warriors. Donc, la finale, elle est quand même accessible.
Oui.
Et elle est tellement ouverte cette
sur une série en play-off. Sur une série en play-off, j'y crois moins. Mais bon.
Moi, je vois des équipes au-dessus d'eux. Pas au-dessus d'eux dans le classement.
Mais est-ce que jouer un peu comme ça, très défensif, un peu dur, c'est pas aussi ce qu'il faut pour battre le Thunder, non ? Qui est une équipe quand même qui joue. Qui a besoin du ballon,
besoin de faire circuler le ballon. Houston, c'est rare sur ce match contre les Warriors, qui est un peu le match référence, c'est qu'ils ont fait pleurnicher les Warriors. Et les Warriors, en général, c'est eux qui font pleurnicher les autres. J'ai vu Steph Curry à limite de faire un front contre front avec Ime Udoka, qui est un coach qui est un peu thug dans la ligue, pour faire sortir un peu de ses gonds Steph Curry. Ça veut dire que vous êtes des bons relous, et des bons relous ils en ont, à commencer par Dylan Brooks. Draymond Green a pleurniché aussi, quand on sait que Draymond Green il a détruit Alperen Şengün. Je sais pas si vous avez vu, il est parti au cercle, il a mis coup de coude, il a voulu jouer dirty. Bon, au final c'est lui qui a chialé, Draymond Green, parce qu'il s'est fait. C'est une équipe qui est pénible à jouer parce qu'ils ont des défenseurs d'élite qui défendent sur tous les postes. Ils ont un point d'ancrage important qui est Alperen Şengün, et on parlait de Fred Van Vliet, ça manque de créateurs. Pour moi, le créateur de cette équipe-là, c'est Alperen Şengün, qui est à 5 passes, décisives de moyenne. Et c'est lui qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si tu ne viens pas attraper, on a beaucoup comparé à Baby Jokic. Bon, maintenant, j'ai plus envie de l'appeler Baby Jokic parce que ça fait 3 ou 4 ans qu'il est dans la ligue.
Et qu'il s'est imposé de lui-même.
S'est imposé de lui-même. Alors, on n'est pas. Bien sûr qu'il y a des parallèles à faire sur sa qualité de passe, sur son physique, même s'il est capable de mettre des plus gros tomards que Nikola Jokic. Mais il y a quelques similitudes. Mais c'est un très bon joueur à part entière. D'ailleurs, il était All-Star cette saison.
Et Amen Thompson, Most Improved Player, vous pensez ou pas ?
Most Improved Player ?
Non, je sais pas. Parce que son progression, elle est assez incroyable.
Il est rookie, non ?
Il est pas.
Il est en deuxième année.
Mais je crois que c'est rare de mettre un Most Improved Player sur une deuxième année.
Il y a d'autres candidats aussi. Il fait une super saison. Hein. Qu'il soit dans les discussions, moi, ça ne me dérange pas.
D'ailleurs. Qui c'est le Most Improved Player ?
Il ne sera pas pour le titre non plus, mais il sera dans les discussions des 10 pour le défenseur de l'année.
Moi, Mobley ou Daniel sans Most Improved Player. Ou Dyson Daniel sans MIP, j'aimerais bien.
Ouais. Peyton Pritchard aussi à Boston,
peut-être meilleur sixième homme aussi.
Ouais, il peut faire les deux. Ouais.
Meilleur sixième homme et Most Improved Player.
Le doublé.
Ça existe ça ? C'est déjà vu ça ?
Non, pas je ça. Crois pas.
Ça serait, mais ça peut.
Ça, dans les faits, ça serait inédit.
Dans les faits, ça
et
peut.
Et puis, quand on parlait de dureté, ils ont aussi un mec qui, bon, est passé aux oubliettes, il était blessé, et là, qui reprend des minutes, et même qui est parfois associé à Alperen Şengün, c'est Steven Adams.
Ouais. Alors, si on jette un œil sur le banc, Tari Eason, Jabari Smith Jr., Steven Adams, Aaron Holiday, est-ce que ça match avec les plus grosses écuries, ça ?
C'est solide dans la philosophie de Houston.
C'est sûr que Steven Adams, pour faire souffler Şengün, c'est bien quand même.
Très bien dans la dureté. Mais surtout que Ime Udoka a cette particularité et qu'il utilise depuis quelques temps maintenant, c'est qu'il est capable d'aligner un 5 majeur. C'est les avatars, en fait. Contre les Warriors, je crois qu'il joue à un moment donné avec Şengün, avec Steven Adams, avec Jabari Smith Jr. sur le poste 3, avec Tari Eason qui est très grand. Il joue avec 5 Golgoth. Donc Ime Udoka coach aussi cette équipe-là. Et sur le banc, Jabari Smith, qui avant était starter l'année dernière et qu'aujourd'hui est en sortie de banc, je trouve que ça, c'est bien mieux pour eux.
Ça marche très bien.
Exactement.
Puis il a fait une bonne saison.
Exactement. Et puis Steven Adams qui grappille de plus en plus de minutes parce qu'il était loin dans la rotation sur le début.
Tari Eason, il t'apporte des choses
aussi. C'est très bon. Cam Whitmore, quand il joue, parce que parfois il est capable de faire des DNP, mais quand il joue, il est très bon. Et ça reste dans la lignée de cette équipe-là. Athlétique, tonique, dureté, défend dur sur l'homme. Donc. Mais le problème, moi, c'est offensivement que ça me pose un problème. Ils ont trop de carences, le tir à 3 points, dernier repas décisif, rythme très lent, 21e adresse à 3 points.
Qui joue meneur quand Van Vliet n'est pas là parce qu'il est souvent blessé?
C'est Holiday, non?
C'est vrai que ça, c'est Aaron Holiday.
Ouais. Et ça suffit, ça?
Bah c'est léger. Moi, je trouve ça léger. Comme
parce que Van Vliet, il n'est pas très fiable physiquement.
Alors, Van Vliet, il n'est pas très fiable. Il y a des gens qui disent qu'il faut s'en séparer pour prendre un meilleur. Le problème, c'est que Houston est bon quand Van Vliet est sur le terrain. Quand il a été blessé, ça a coïncidé aussi à la mauvaise période de Houston. C'est un peu un stabilisateur de jeu. Il est ultra important, je pense, dans le collectif de Houston.
Steve, tu disais quand même 25e au tir à 3 points rentrés, 28e aux passes décisives. Il y a des grosses carences offensives, donc ça peut vraiment poser problème.
Et puis, être champion sans tir à 3 points en NBA, c'est compliqué
dans
quand
la
même.
La NBA moderne.
Bah, en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'ils sont capables de faire des grosses séquences à 3 points et de mettre dedans, un peu à l'image de Jalen Green qui est capable de faire. De mettre tout dedans.
Ils n'ont pas de spécialiste, de pur spécialiste.
C'est ça.
Même
c'est,
Bowles,
c'est ça le problème. Ils n'ont pas un mec fiable.
Mais c'est pas
le mec le plus fiable, c'est peut-être Fred VanVleet en fait, à 3 points. Et
il passe à travers par
là. Voilà. Donc c'est ça aussi le problème.
Alors non, c'est un spécialiste Fred VanVleet, Rockets.
Fred VanVleet sera sur Paris-Roubaix. Hein.
non, bien sûr, bravo. Donc nous allons parler des deux joueurs majeurs de cette franchise.
On va aller un peu plus haut.
Alperen Sengun, beast, beast, big dog.
Comes into the lane, now back to Amen Thompson. The dish into Sengun, steps under Holmgren, and scores on the other side of the rim.
Sengun right down the lane.
Jalen Green using Sengun as a shield.
Sengun on Looney.
Wow, he's so slippery. His game really reminds me of Jokic.
How much do you believe in Jalen Green?
Long rebound, Jabari Smith Jr. to Jalen Green for the dunk. And another bucket. For Jalen Green. All Rockets will push tempo again. There's the lob. And there is the incredible reverse jam by Jalen Green.
This is just nasty right there. My goodness.
Alors, qui est ou qui doit être le go-to guy de cette équipe? Alperen Sengun, le pivot turc drafté maintenant il y a 4 ans en provenance du Beşiktaş. Et, ou alors la machine à highlights Jalen Green qui lui est dans sa, si je ne dis pas de bêtises, 4e saison également. Et tout au Houston Rockets. C'est pas vraiment le... Enfin, est-ce que c'est vraiment une question qui se tranche, ça? Est-ce qu'il doit forcément y avoir un go-to guy d'ailleurs dans une franchise, Alex?
Je ne suis pas sûr. Moi, en tout cas, entre les deux, je mettrais quand même plus tôt les rênes du jeu dans les mains de Sengun. Pour tout ce qu'il peut apporter, pour le côté plaque tournante qu'il a. Et j'ai noté une phrase en fait, de Jalen Green qui date de début novembre, quand ils commencent la saison et qu'ils font un très bon début de saison. Et Jalen Green, après une victoire, il est interrogé sur la complémentarité entre les deux. Et il dit, on compare souvent, ça va reprendre ce que tu disais Steve, mais il dit qu'on a souvent comparé Sengun à Baby Jokic. Et il dit, bah, moi je veux bien être Jamal Murray. Et c'est une phrase de Jalen Green. Donc on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que Jamal Murray pouvait te faire gagner des matchs, il peut être dans certains matchs supérieurs à Jokic, mais la plaque tournante du jeu, celui par qui doit passer le ballon la plupart du temps, c'est Jokic. Et je pense que dans cette comparaison, elle n'est pas directe entre les joueurs, mais j'aime bien sa comparaison parce que je pense que ça pourrait correspondre à ça, le jeu des Rockets.
Donc c'est plutôt, le jeu tourne plutôt autour de Alperen Sengun.
Mais ça ne veut pas dire que c'est plus la star. C'est que le jeu, pour moi, doit tourner autour de lui. Ça ne veut pas dire que c'est plus la star. Je pense qu'aux États-Unis, Jalen Green est encore plus star que Sengun.
Steve, mais... tout à l'heure.
Ouais. Exactement. Mmh. Il t'apporte beaucoup plus à la création.
Martin.
Moi, je suis d'accord. Sengun, en termes de création, en fait, la base de cette équipe, pour moi, doit tourner autour de Sengun. Et celui qui va faire passer cette équipe dans un niveau supérieur en termes de scoring, en termes de points, c'est Jalen Green. Et la comparaison entre Jokic et Murray, elle est très bonne. Quand les Nuggets sont champions, il y a Jokic qui fait ses matchs, qui est hyper important, évidemment. Mais par contre, celui qui permet d'avoir d'aller un peu plus haut et d'aller chercher ce titre, entre autres, alors il y avait plusieurs joueurs évidemment, mais c'est Jamal Murray. Pour moi, Sengun, en termes de création, on l'a dit, il y a un manque de création dans cette équipe. Le seul qui crée des choses, c'est les 5 passes amenées par Alperen Sengun. Il est hyper intéressant, il trouve des passes que personne ne trouve, il a un jeu qui est dos au cercle, il est capable de le faire. Il est un peu soft défensivement encore, mais quand il a le ballon dans les mains, c'est quand même, il a des mains qui sont sûres. Alors que Jalen Green, c'est un peu le foufou, un peu le pétard ambulant, qui est capable de mettre des gros tournards, qui est capable de mettre des cartons de points, mais qui est capable aussi de rien mettre à 3 points. Et de faire des mauvais choix, même si cette année il a beaucoup trié, il a beaucoup progressé.
De plus en plus régulier.
Ouais, il est plus régulier, il a trié son jeu, et ce qui fait de plus en plus intéressant, j'aurais quand même tendance à mettre le jeu dans les mains d'Alperen Sengun.
Alors, qui est le go-to guy de cette équipe, Steve?
Après, le comparatif avec Jokic et Murray, il peut être intéressant. Maintenant, quand vous prenez les stats, il y a quand même un écart colossal entre les stats de Nicolas Jokic et celle de Jamal Murray, qu'il n'y a pas entre Jalen Green et.
Moi, je la prenais parce que c'est Green qui l'a fait.
Bien sûr. Maintenant, je vous rejoins sur le fait, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'avoir un go-to guy dans une équipe. C'est une équipe où il y a 7 ou 8 joueurs entre 8 et 21 points. Après Jalen Green qui a 21, après tu as Shengun à 19, après tu as 3 mecs à 14. Donc à un moment donné, la marque, elle est bien répartie. Ça peut être aussi un danger et une qualité. Je vais quand même aller sur Alperen Shengun parce que dans le profil du joueur, je me dis qu'un garçon comme Jalen Green, arrière, ultra athlétique, slasher, créateur balle en main qui se crée des tirs par lui-même, c'est peut-être un petit peu plus courant en NBA qu'un pivot qui a du post-up, qui a une lecture de jeu exceptionnelle, qui est capable d'orienter le jeu, qui est capable de prendre 15-20 rebonds sur une soirée, de mettre des points sur du post-up ou d'avoir son petit tir extérieur. Je me dis que c'est une dorée peut-être un peu plus rare aujourd'hui qu'un arrière ultra athlétique comme il y en a, Zach LaVine.
J'aime ton euphémisme. Oui, c'est beaucoup plus rare.
Anthony Edwards.
Donc justement, tu vois, les joueurs qui font gagner en NBA, c'est des Anthony Edwards. Enfin, en tout cas, je ne parle pas de cette période en ce moment, hein. Mais les gars qu'on recherche en NBA, c'est des Anthony Edwards. Alors,
c'est beaucoup plus simple pour gagner si tu as un profil à la Shengun ou à la Jokic à côté de son profil comme
ça. Je veux pas passer pour le mec qui dénigre un talent en devenir, mais le problème, c'est que
attention, parce que tu pars à Istanbul la semaine prochaine quand même.
La comparaison entre Jokic et Shengun, est-ce qu'elle n'est pas viciée par le fait que Jokic, on a un phénomène qu'on n'a jamais vu, qu'on ne reverra plus jamais. C'est-à-dire que le mec a les mêmes qualités probablement, sauf que Jokic, on parle d'un mec qui est all-star all-time.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Et voilà, et ce que ne sera peut-être pas Shengun, il sera peut-être, on lui souhaite.
Shengun,
il
est all-star.
Oui, déjà. Oui, mais ouais, pour aller au niveau d'efficacité de Jokic, il y a quand même un step qui est monstrueux. Oui,
je me dis qu'un Jalen Green, c'est possible d'en trouver un autre.
C'est possible d'en trouver un autre, mais est-ce que c'est pas ces gars-là finalement qui te tirent une équipe vers le haut de la façon dont voient le basket les Américains?
On peut pas les mettre dans la même sphère, Jokic et Shengun, mais c'est quand même un profil de joueur, comme dit Steve, c'est hyper atypique, t'en trouves pas partout des gens, et puis il joue bien, c'est pas seulement une comparaison vraiment au rabais où Shengun fait rien. Il apporte au jeu, il apporte en stats. Enfin, tu vois, on peut pas nier ce qu'apporte Shengun dans une équipe.
Ça t'amène d'autres possibilités en termes de jeu que ce que peut apporter Jalen Green, qui effectivement a un profil qu'on trouve un peu plus en NBA. Un mec comme Shengun, tu peux développer des systèmes autour de lui que tu peux pas faire si t'as par exemple Steven Adams
Ça va être très bien pour organiser ton équipe, faire progresser ton équipe, gagner des matchs, mais est-ce qu'au moment du money time d'un match 7 que... tu vas pas plutôt donner le ballon à Jalen Green?
Sauf qu'il y a une problématique.
Moi je pense que l'ADN de la NBA, c'est plutôt ça quand même.
Pourquoi je te dis que je vais sur Alperen Shengun, c'est parce que dans cette équipe là je regarde ce qu'il y a aussi ailleurs et je me dis que parmi les mecs qui a le plus haut plafond, c'est même pas un de ces deux garçons là Pour moi, c'est Amen Thompson. Et à un moment donné, si Amen Thompson, qui est amené à être un joueur exceptionnel, s'il explose, s'il va y avoir embouteillage avec Jalen Green. Et que si jamais tu veux une monnaie d'échange, Jalen Green est peut-être intéressant. Amen Thompson est un joueur pour moi d'exception.
Tu penses qu'ils ne sont pas compatibles les deux ensemble?
Surtout avec son contrat.
Et aucun des deux peut devenir meneur.
Et Jalen Green, avec son contrat, c'est une belle monnaie d'échange.
Thompson n'a pas joué quelques matchs meneur.
Enfin, il est ultra complet, Amen Thompson. Il défend déjà sur les positions 1, 2, 3.
Ça ne va pas être la solution, ça?
Le problème, c'est qu'il faut qu'il s'achète un tiers à 3 points à Amen Thompson, parce que pour l'instant c'est 28% en prenant un par match dans la NBA actuelle. Il faut être capable d'exister quand même sur le tir longue distance. Mais il y a l'émergence de ce garçon-là qui pourrait trancher Pierrot, Jalen Green, Alperen Shengun.
Et que Green prenne le dernier tir, comme tu disais Pierrot, mais c'est pas dérangeant du tout. Même si le jeu s'organise autour de Shengun, Murray il a pris les derniers tirs, même dans des équipes où il y avait Jokic, c'était Murray qui prenait le dernier tir.
C'est pas forcément une question à trancher.
Dylan Brooks peut prendre le dernier tir, Fred VanVleet peut prendre le dernier tir, il y a un paquet de mecs. Hein.
Et c'est quand même l'avantage, vu qu'on parle de ces deux joueurs, c'est quand même l'avantage et ça reflète pourquoi aussi Houston fait une bonne saison. Je trouve c'est quand on regarde, Steve tu le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui a eu beaucoup de blessés cette année, mais les deux joueurs qui ont joué le plus, 79 et 75 matchs, c'est Shengun et Green. Les deux stars de l'équipe, c'est ceux qui ont été le plus sur le terrain, donc je pense que c'est un gros avantage pour cette saison.
C'est ça qui est fort d'ailleurs avec Jalen Green, c'est qu'il joue tous les matchs, il joue tous les matchs de son équipe. Déjà la saison dernière, il avait joué les 82 matchs. Ouais. En termes de fiabilité physique, le garçon il est là.
C'est Hulk.
Après juste un mot, une petite parenthèse sur...
Comment ? C'est Hulk, Jalen Green.
C'est Hulk, Jalen Green, oui, c'est excellent.
Green, oui, c'est voilà. Excellent. Tu l'as.
C'est la couleur.
Oui, c'est la couleur. Il est colo.
Aussi, c'est un peu Marine Tondelier.
Petite parenthèse sur Jalen Green. Est-ce qu'on n'a pas quand même un joueur qui a le potentiel pour être une icône du basket américain?
J'ai pas entendu.
Jalen Green.
Jalen Green. Est-ce qu'on n'a pas le potentiel en termes de spectacle pour avoir une icône du basket américain?
Ah, de spectacle aussi.
Spectacle, il a mis quelques pétards. Avant de commencer l'émission, j'ai regardé 10 minutes de YouTube.
Pour le coup,
il est très filiforme.
L'équipe n'est pas belle à voir jouer, mais lui, il est kiffant.
Il fait 94 kilos, il est très fin.
De là, utiliser le mot icône, il y a encore du chemin, je pense.
Il y a du chemin, bien sûr. Je parle de potentiel. C'est le genre de joueur qui qui cartonne, enfin qui cartonne, qui fait plaisir.
C'est un peu le même profil qu'Anthony Edwards, même si Anthony Edwards
est
en moins costaud et moins puissant, mais dans la dynamique, se créer ses espaces, se créer son shoot, faire des dribbles un peu n'importe comment pour aller au cercle et mettre un gros Thomas, bon, il aime bien ça, Anthony Edwards. Après, entre les deux, il y en a un qui peut être le visage de la ligue. Plus, c'est plus Anthony Edwards.
Jalen Reed a besoin encore d'être un petit peu éduqué dans le basket. C'est un garçon qui sort de G League. Il a été drafté quand il était in It League. Donc, il y a peut-être un manque aussi de vécu, de basket, de connaissances basket. Qui est Anthony Edwards, qui a été formé quand même dans une fac de très haut niveau, un peu plus d'avance là-dessus. Et c'est pour ça que parfois, on voit Jalen Reed partir dans des murs, dans des 1 contre 4 et faire quelques erreurs de lecture. Mais ça va. Il a 22 ans.
Il progresse là-dessus.
Bon, vous êtes tous à peu près d'accord. Le franchise player, c'est Alperen Sengun. C'est
pour toi qu'on dit ça, Pierrot, pour son séjour à Istanbul, pour que tu n'aies pas de problème.
Non, mais ça va très bien se passer.
Je passe à remarquer Pierrot, mais il est fort, Arthur Robert. On fait une émission sur Houston et dans le fond, sur les écrans, il nous a mis la finale universitaire de Houston.
Et oui, les Houston Cougars.
Il est bon.
Quand perdu contre Florida.
Dylan Brooks.
Il ne veut pas parler, parce qu'il va être dans le quiz.
Get the women and kids out of the room. Here come the Sixers and Pistons.
Bill Laimbeer, Charles Barkley. They make no secret of the fact that they don't like each other. And then Barkley and Laimbeer. Barkley gets in the left. Laimbeer will come back with an uppercut. Both benches empty. It went on for 5 minutes. The fans also got involved in it. It was an ugly situation.
A lot of contact caused by Bruce Bowen.
That was contact made with the foot by Bruce Bowen.
As Pachulia knocks down Westbrook, then stands over him.
And then Draymond, he headlocked Gobert there, so.
And then Brooks ties up Gilgeous Alexander. Here come both teams. Here comes Rocket Security. And we got a scrum in front of the Rocket bench.
I love it.
Tu me parles du quiz, je viens de rajouter, en vous écoutant, la question d'accord ou pas d'accord avec moi. Je l'ai improvisé, je l'ai.
C'est super, au moins je l'aurais fait une fois. C'est superbe.
Ce mec est fou.
En plus, franchement, ça me tient à cœur, donc j'aimerais avoir votre avis.
Ah, c'est superbe.
Pour l'instant, nous allons parler de Dylan Brooks indirectement, puisque c'est la partie historique. Dylan Brooks pour le sale boulot. Parlez-moi d'un dirty player que vous avez aimé. Martin, tiens, c'est
moi qui commence. Je vais vous parler des Spurs des années 2000. Pourtant, quand on parle des Spurs des années 2000, en général, on parle de basket léché, de jeux sympas, etc. Voir G. Oui, mais à côté de Tipeee, de Tim Duncan, de Manu Ginobili, il y avait un chien de garde qui avait passé par Évreux avant de débarquer en NBA. Il s'appelle Bruce Bowen, le numéro 12 de cette équipe, qui est un maillon indispensable de cette équipe-là sur les titres de 2003, 2005, 2007 des Spurs. D'ailleurs, sur les 3 saisons, sur les 5 saisons qui passent entre 2003 et 2007, il joue à chaque fois les 82 matchs de saison régulière, il joue à chaque fois tous les matchs de play-off. Alors c'est un gros shooter à 3 points, mais là où il a surtout marqué tout le monde, c'est pour sa défense. Très gros défenseur, parfois limite, parfois même plus que limite. C'est pas un défenseur méchant ou dans le sens où tu vas voir ce qu'il va faire. C'est pas un mec qui va te mettre des coups de poing, qui va te mettre des droites. C'est pas Bill Laimbeer.
C'est un vicieux quoi.
C'est un gros vicelard, exactement. C'est le genre de mec, c'est lui qui a démocratisé, en tout cas c'était un peu sa marque de fabrique, tu sais, se glisser sous les appuis des joueurs quand ils sautent. Il faisait ça, mais il faisait ça tout le temps. Il y a Vince Carter, il l'a fait 3 fois sur 3 saisons différentes. La 3e fois, Vince Carter, il a pété un plomb, il a voulu aller l'attraper. En 2002, alors c'est pas l'année d'un titre, mais il met un high kick à Walid Cherbiak. J'ai découvert cette image, je l'avais pas du tout en tête. Walid Cherbiak, qui est donc un joueur de Minnesota, qui va pour mettre un shoot à 3 points, il fait une feinte, sauf que Bruce Bowen décolle et je sais pas, peut-être il a voulu aller le contrer avec le pied, j'en sais rien. Il lui met un high kick dans la tête à Walid Cherbiak qui reste au sol.
On lui en veut moins pour Cherbiak que pour Iverson ou Vince Carter.
Ouais, il a attrapé les chevilles d'Allen Iverson, il a marché sur les mains de Kobe.
En tant que spécialiste combat, quand même, celui-là, il est.
Ah,
le coup de pied,
il
est particulièrement.
Allez voir des images de Bruce Bowen, franchement, c'est assez impressionnant. On l'a vu aussi marcher sur le tendon d'Achille d'Amare Stoudemeyer, alors que l'intérieur des Suns partait pour dunker. Donc au moment où il dunk, t'as un mec qui te marche sur le tendon d'Achille, ça peut être un petit peu dangereux, surtout quand on est grand comme ça. C'était donc devenu le spécialiste de se glisser sous les appuis. Plus tard, il a déclaré qu'il avait blessé un joueur volontairement une seule fois dans sa carrière. C'était Reggie Miller. Il savait pas comment l'arrêter. Il s'est dit bon bah lui je vais le blesser parce que voilà. Peut-être qu'il y a un peu plus de monde finalement qu'il a blessé volontairement, ou en tout cas qu'il a essayé de blesser volontairement. Malgré tout, même si c'est quelqu'un qui est devenu un bad boy et un gros défenseur, un dirty player, son numéro 12 a été retiré par les Spurs parce que effectivement c'est c'était un joueur ultra important dans cette équipe des années 2000, qui a d'ailleurs été régulièrement élu dans les meilleurs 5 défenseurs.
Et le contraste avec Bruce Bowen sur le terrain, moi j'ai eu la chance de faire une petite soirée avec Bruce Bowen lors de la cérémonie du Hall of Fame de Tony Parker. Donc après, je suis parti à la soirée, Bruce Bowen était là. Je peux te dire que Bruce Bowen est un mec exceptionnel, marrant, très bon danseur, envoie des petits moonwalks de qualité. Donc super mec, et il faut savoir que c'est des garçons qui se sont imposés en NBA en changeant de rôle. En France, c'était le meilleur scoreur du championnat de France. Il arrive en NBA, il a compris que il devait avoir un rôle, c'est-à-dire dans le corner à mettre des tirs à 3 points et défendre et parfois blesser des gens. Alors aujourd'hui c'est faute technique, faute anti-sportive.
Il terminera pas beaucoup de matchs.
Quand tu rentres dans le cylindre du joueur,
c'est bien ça.
Et c'est dangereux, protection du shooter, donc c'est terminé tout ça.
Il avait pourri les finales de LeBron James en 2007. Sachez qu'il a ramené de son passage en France l'amour du pain au chocolat.
Comme souvent.
Alex,
t'as goûté des pains au chocolat aux States ?
Comment ?
J'ai goûté des pains au chocolat aux States.
Je m'y risquerai pas.
C'est catastrophique. Ou alors tu vas dans une belle boulangerie française et ça coûte $9.
Voilà, c'est ça. Il a peut-être ramené l'amour de la chocolatine, on ne sait pas.
Évreux, Besançon,
il n'y a pas de chocolat.
C'est vrai que ce n'est pas le point.
Aux États-Unis, ce qu'il faut faire, c'est les bagels. Les bagels frais, c'est une tuerie.
Ah ouais. T'aimes ça ?
Avec le bagel frais.
Avec le fromage blanc, avec le white cream.
Ça ne supporte pas 12 heures de. Comment dire ?
Pour le manger direct.
Direct. Ça sort du four, tu le bouffes, c'est un délice. Avec de la Philadelphia.
Philadelphia.
Saumon.
Avec Tom Hanks, super.
Des herbes.
Philadelphia.
Et c'est parti.
J'ai vu Philadelphia avec Tom Hanks ?
Non.
C'est l'heure pour parler de ça. Il va nous donner faim.
Je vois.
Il va nous donner.
C'est parti des films que j'ai pas vu.
Non, c'est pas une histoire de fromage là.
Steve.
Alex,
pardon.
Il y en a un qui a un peu plus de cheveux quand même. Je vais vous parler de Zaza Pachulia, le premier géorgien champion en NBA. C'était en 2017 avec les Warriors. Sur les bons conseils de l'ami Steve, parce que moi je voulais prendre personnellement Dennis Rodman, parce que quand il fait des croche-pieds à Karl Malone dans le match 1 de la finale NBA, pour moi ça restera Madeleine de Proust, Dennis Rodman. Mais Zaza Pachulia, c'est aussi intéressant à évoquer. Et ces titres en 2017-2018 avec les Warriors, ils sont aussi dus en partie à son côté dirty player. Alors, l'ancien de Orlando, Milwaukee, Atlanta et Dallas, il débarque aux Warriors à l'intersaison 2016, après une saison aux Mavs où il est à 14 000 votes de prendre la place de Kawhi Leonard au All-Star Game en tant que titulaire. Et pourquoi c'est important de citer ce nom ? Parce qu'il va revenir dans le destin de Pachulia l'année d'après. On est dans le premier match des finales de conférence en 2017 contre les Spurs. Les Spurs sont numéro 2 à l'Ouest, les Warriors sont numéro 1 à l'Est. Les Spurs ont été titrés en 2014, les Warriors en 2015, il y a eu les Cavs en 2016, donc c'est des grosses équipes du moment. Et dans ce premier match, il y a un tir pris dans le corner par Kawhi Leonard qui retombe sur le pied de Zaza Pachulia. La cheville tourne, fin de série pour Kawhi Leonard. La série se terminera à 4-0 pour les Warriors. Est-ce que les Spurs auraient pu battre ?
Les Spurs sont en train de dominer les Warriors.
Voilà, est-ce qu'ils auraient pu battre les Warriors ? On n'en sait rien. En tout cas, ça a complètement changé cette finale de conférence. Lui dira qu'il ne l'a pas fait exprès. Tout le monde dira qu'il l'a fait exprès. Les médias, il accusera beaucoup les médias. Il dira qu'il a essayé de joindre Kawhi Leonard, qu'il lui a jamais répondu, que c'est les médias qui en ont fait des caisses parce que c'est une action lambda. Quand on revoit l'image, il tourne la tête, mais il sait où il atterrit quand même. Je l'ai bien revu ce matin.
Kawhi Leonard qui lui répond pas, il répond pas. C'est pas.
C'est oui, c'est vrai. Il répond peut-être pas à sa famille. Donc c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça change énormément de choses dans cette finale de conférence de conférence Ouest. Zaza, c'est aussi quelqu'un qui savait beaucoup utiliser les coudes, un bon dirty player comme on les aime. Il y a des rivalités énormes sur ça avec Russell Westbrook notamment. Il y a
un bon joueur de basket ou pas lui ?
Zaza Pachulia ?
Ouais.
Bon, c'est un bon boucher charcutier.
C'est
quoi.
C'est du soldat, quoi.
Ouais.
C'est du soldat.
Tu le mettais pour être solide, quoi.
C'est du soldat. Et t'as deux actions sur Westbrook, notamment t'as un écran d'une violence absolue à mi-terrain où il envoie valdinguer Westbrook, et une autre action en 2018 où il lui retombe sur le genou exprès. Westbrook qui est sur une action offensive, qui retombe, et tu vois Zaza qui lui tombe dessus. Westbrook, bien sûr, pense qu'il voulait lui blesser le genou exprès. Zaza dit que c'est pas le cas. Kevin Durant, qui est alors aux Warriors, dit qu'il s'est emmêlé les pieds avec Nick Young. Enfin, on sait jamais vraiment, mais quand tu regardes les images, t'as quand même l'impression qu'il lui saute bien sur le genou pour essayer de le blesser, l'ami Pachulia. Westbrook qui se vengera une année plus tard quand Pachulia est au Detroit Pistons à les revoir avec une faute flagrante. Il lui met une claque quand il monte, quand Pachulia monte au dunk. C'est impressionnant. Et pour vous montrer le côté dirty player de Pachulia, c'est simple, sur YouTube il y a des compilations de mecs qui se sont vengés de Zaza Pachulia. La façon dont ils se sont vengés de lui, et t'as notamment Yan Mainmi quand il est aux Pacers qui se venge avec un coup de coude des enfers sur Pachulia qui avait dû lui faire vivre l'enfer tout le match. Et t'en as même une aussi de Yanis Antetokounmpo qui à un moment pète les plombs parce qu'il en a marre du dirty play de Zaza Pachulia. Donc dans les dirty players, il est bien arrangé dans cette catégorie-là, notre ami Georges.
Je regarde ses stats, c'est 16 saisons de NBA, deux fois seulement au-dessus des 10 points de moyenne. et souvent autour des 7-8 points. Donc c'était pas son taf, quoi.
Quand t'as quand même une compilation des mecs qui se vengent, c'est que après, t'as bien fait le taf.
Après, quand tu joues avec Klay Thompson, KD et Steph Curry, t'es pas là pour mettre des points de
ouais, ouais, non, même à Atlanta, ça, c'était du 5
cette
points
de moyenne. Cette partie-là est prise, t'apportes autre chose.
Toute petite parenthèse sur Kawhi, puisque t'as parlé de Kawhi dans ton sujet sur Paschulia. En ce moment-là, on a le grand Kawhi, là.
Ouais.
Alors...
Combien de temps ?
Non, mais pas combien de temps, mais surtout les Clippers. C'est sérieux ou c'est pas sérieux ?
Clippers, ça fait 5 ans, je dis qu'ils sont sérieux. C'est la première année où je m'arrête et peut-être qu'ils sont vraiment sérieux.
C'est une belle équipe, hein ?
C'est une belle équipe.
Harden est chaud bouillant.
Zubac est énorme.
Zubac, incroyable.
C'est un très complet, en fait.
Le 5 est terrible. Normalement,
fait une saison énorme. Nico Batum est toujours là.
Après, à l'Ouest, c'est tellement le bazar.
C'est tellement dense.
C'est la jungle. J'aimerais bien un petit Clippers-Lakers.
Ça peut arriver. Qui est ton dirty player, Steve?
Écoute, moi c'est un mec des Pistons, mais c'est pas Bill Laimbeer, c'est pas Dennis Rodman, c'est pas John Sally. C'est peut-être le moins connu des bad boys, mais qui selon John Sally était peut-être le plus gros bad boy des bad boys. C'est Rick Mahorn, un gros babard de 2m8 pour 120 kilos. Je sais pas si vous connaissez le terme goon au hockey sur glace.
Oui.
C'est un mec qui est loin d'être le meilleur joueur, mais qu'on envoie sur la glace pour aller détruire souvent le meilleur joueur adverse ou provoquer une bagarre.
Dans les bagarres, c'est les goons. Les bagarres au hockey, c'est les goons.
Et en fait, en faisant un raccourci un peu rapide, Jerry Rick Mahorn était un peu le goon d'Isaiah Thomas, c'est-à-dire qu'on envoyait en combat, qui était quand même le pivot titulaire de ces Pistons champions en 1989. Si Draymond Green avait joué à l'époque de Rick Mahorn, je pense que Draymond Green aurait fini sur un brancard très, très, très rapidement. Il a découpé tout le monde. Patrick Ewing, Mark Price, Scottie Pippen, Dominique Wilkins. Il a pris des amendes à tout va aussi. Il n'aura pas la chance d'être là en 90 pour le deuxième titre des Pistons, puisqu'il fera partie des joueurs mis à disposition par les Pistons pour l'expansion de la Ligue. Vous deviez protéger 8 joueurs et ensuite vous en laissiez d'autres libres parce qu'il y avait l'arrivée d'Orlando et de Minnesota qui arrivaient en NBA. Cette nouvelle-là, il a appris durant la célébration du titre de 89, pendant la parade. Il a été pris sur un côté par le dirigeant en disant voilà, Rick Mahorn, on t'a laissé libre, tu vas quitter les Pistons. Et c'était un traumatisme pour lui parce que sur un documentaire, je crois, sur ESPN en 2014, il finira même en larmes dans le documentaire en disant c'était un des plus gros traumatismes de ma vie. Il jouera 2 saisons avec Barclay ensuite aux Sixers. C'était curieux de voir le binôme ensemble alors que Mahorn avait découpé Barclay aussi et qu'il s'était mis sur la truffe. Après Philly, il part en Europe à Rome pour faire une doublette redoutable avec Dino Radja. Rick Mahorn, Dino Radja, ils gagneront la Coupe Korac en 92. Il démarre la saison 93 avec le club italien. Il sera viré parce qu'il a jeté une chaise sur la tête du coach après une discussion un petit peu houleuse. Rick Mahorn, c'était le taulier de la raquette. Il y avait Bill Laimbeer, il y avait Dennis Rodman, mais c'était lui pour moi le plus dangereux et un vrai dangereux, parce que Bill Laimbeer pour moi n'était pas un vrai dangereux, c'était des grosses fautes, mais je pense qu'il s'échappait à la bagarre. Rick Mahorn, lui...
T'es sûr de ça ?
Ouais,
en tout cas, Mahorn, il s'échappait pas.
Rick Mahorn, il s'échappait pas. Je te le dis tout de suite, il était là au premier rang. Allez voir aujourd'hui des photos de lui aujourd'hui. Je pense qu'il fait 240 kilos.
Dans le document ESPN, c'est impressionnant. Il est assis dans un fauteuil, là. Il paraît, mais c'est une armoire à glace, le garçon.
Donc, allez voir des vidéos, parce que là aussi, Alex parlait des compiles de Zaza Pachulia. Je vous annonce qu'il y a des 3 compiles différents, 3 épisodes de Rick Mahorn qui découpent tous les joueurs NBA des années 80-90.
L'anecdote d'être dégagé pendant la célébration du titre, ça te montre que la NBA, ça fait longtemps que c'est le Far West pour ça, pour les joueurs. Hein,
Rick Mahorn, du jour pivot des années 90 des Pistons, hein, c'est
exactement,
ça
exactement, pivot titulaire lors du titre de 1989, 17 matchs de starter en playoff.
Qui est le joueur le plus dangereux là, actuellement ? Il y en a ou il n'y en a plus vraiment ?
Il y a un mec qui joue aux Pacers, qui ne joue pas beaucoup, c'est James Johnson.
Oui,
très dangereux parce que je crois qu'il est ceinture noire d'un sport de combat et dès qu'il y a une échauffourée et que James Johnson arrive pour séparer, tout le monde s'arrête. Ils savent que c'est le joueur le plus dangereux.
C'est bon, monsieur, c'est bon.
Et à l'époque, il y avait un mec qui s'appelait Zach Randolph.
Ouais.
Oui. Chercher bagarre avec Zach Randolph, ça n'existe pas. Parce que personne n'a voulu se taper. Exactement, tout le monde s'arrêtait.
Ouais.
Grosse faute, le mec voulait se battre. Zach, c'est bon, hop, il a arrêté. Zibo, très dangereux.
Bon, c'est parfait, on est bien chaud pour le quiz.
Le sport co permet de côtoyer des gens avec des caractères totalement différents et ce qui est bien, c'est de cet assemblage de caractères forme une équipe.
Voilà, écoute, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au basket. Voilà, c'est comme le vélo, j'ai l'impression. C'est vraiment très facile.
C'est quoi les stats ?
10 minutes, j'ai pas joué beaucoup.
J'ai la chance de travailler dans la plus belle radio de sport qui existe, qui est RMC.
C'est gratuit ce truc, ça n'a rien à voir avec
ça. C'est un truc de salopio ça.
C'est juste pour se foutre de toi.
Pur plaisir.
Arthur Robert.
Pur plaisir.
Arthur Robert, ça peut être que Robert d'ailleurs.
Ma foi. Quel était ce match là?
Pardon?
Le match dont tu parles.
C'était un match de médias pour le Final Four d'Euroleague l'année dernière, où il y avait des anciennes gloires de l'Euroleague. Voilà, bon, j'avais fait un carton. Hein. Voilà, normal, pur. Okay. Goldfinger.
T'as arrêté quand? C'était Vannes, c'est ça ton dernier club?
En N2, oui, c'était 2017, je crois.
Mais tu t'amusais là?
Ouais, facile,
t'as réussi quoi. À prendre des techniques 9, et te faire expulser.
Record de la nationale de 9 fautes techniques
suspension.
En une saison. 3 fois en commission de discipline. La première fois, je suis allé. La deuxième fois, j'ai écrit des courriers. Je n'avais pas me déplacer non plus. Pour... Ah, je vous présente mes excuses. Je suis prêt à participer à un stage d'arbitrage si vous voulez. Bon, ça n'a pas marché.
T'as fait un stage d'arbitrage? Non, tu devrais.
Pour faire quoi?
Bah, pour aider les gamins. Pour,
ça les aide, les gamins
progresser. Bah, il faut des arbitres pour le sport.
C'est important, Pion.
Très important, les arbitres.
Samedi matin.
Il faut les respecter, les arbitres.
Mmh. Il faut donner des bonnes licences, surtout.
Encore un échange. Encore un échange que tu pourras garder, Arthur. N'hésite pas.
Alors, le blind test, c'est la nouveauté depuis maintenant quelques semaines. On démarre. Le thème, c'est Houston. Ça ne veut pas dire que c'est forcément
non.
Des artistes de Houston, parce qu'il n'y en a pas non plus mille. Ou alors, on peut faire un spécial country, si vous voulez, mais...
Vous êtes prêts?
Pas sûr qu'on soit au top.
Non. Allez, premier extrait.
Tu connais, mais alors le nom, c'est nul en musique.
C'est Machin Rogers, non, c'est pas ça, non?
Non, c'est beaucoup plus connu, c'est là, une Rosta.
Oui, John Lennon.
Elton John, merci Martin.
Elton John.
Rocketman.
Ah ouais!
Rocketman.
Je l'ai vu au concert il y a 2 ans, il est rôti quoi.
Ah mais rôti complet.
Sur votre scène, sur un.
Le seul intérêt de cette question vient de tomber.
Les pubs pour les anciens ou des maisons à étage, là, les sièges électriques qui montent les escaliers là. Stana, lui il a ça pour sortir de Bercitude.
Il est rôti, c'est fini quoi. À un moment, les mecs, il faut qu'ils s'arrêtent. Hein.
Il le dépose sur la scène.
Belle moumoute, Elton.
Moumoute, lunettes, il n'y a rien qui va. La peau dégueulasse. Bon, deuxième extrait.
Beyoncé.
Oui.
Beyoncé, c'est pour Stephen.
Ah, mais moi, je l'aurais vu. Incroyable.
Vient de Houston, Beyoncé.
Ouais.
Queen Bee. Voilà. On enchaîne, troisième extrait.
Travis Scott,
Houston également. Ça, c'est la musique. C'est la musique de Stephen, ouais, ça.
Bien sûr.
Le problème, c'est que vous n'étiez pas invité là-dessus. Plus difficile, le quatrième. Hein.
Chez les Cowboys
de Houston. Là.
C'est qui ça?
Dolly Parton.
Excellent, qui a dit ça?
C'est lui?
Allez,
c'est quoi, Kelly Clarkson?
Dolly Parton.
Ouais. C'est quoi ça? C'est sans doute. Je vais pas faire une belle carotte d'Alexandre Arminé là-dessus.
Je sais pas.
Ah, y a une carotte, laisse-moi tranquille pour mes derniers jours.
Dolly, moi, laisse-moi kiffer. La seule Dolly que j'ai, elle est gonflable, elle est chez moi. Moi.
Alors, très vite la dérive. Là.
Alors, Dolly Parton, aujourd'hui, elle a 79 ans, elle est gonflable aussi. vous pourrez aller voir des images si vous voulez. Ça vous amuse. Bon, après le blind test, on en est à 2 points pour Steve, 1 point pour Martin et 1 point pour Alex. C'est un spécial Houston Rockets. On va donc enchaîner là. Des vrais ou faux sur Hakeem Olajuwon. Et il y en a un certain nombre.
Chacun notre tour.
Chacun votre tour, on va enchaîner vite. Et on démarre avec Stephen.
Bonjour.
Son nom de famille, Olajuwon, signifie toujours au top. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors, j'ai fait nigérian en troisième langue. Olajuwon, c'est faux, Pierrot.
C'est vrai.
Merde.
Martin, Olajuwon a démarré le basket à seulement 15 ans.
C'est vrai.
C'est tout à fait vrai. Alex, le trophée de meilleur défenseur de la Ligue porte désormais le nom de Hakeem Olajuwon Trophy.
Non.
C'est pourtant vrai. Martin était le seul à marquer un point sur cette première salve de questions. Stephen en 82. Olajuwon et Clyde Drexler, comme vous le savez, ont joué ensemble à la fac. Dans la même équipe, ont perdu en demi-finale contre James Worthy et Michael Jordan.
C'est faux.
C'est vrai.
Bien sûr.
Martin, lors de sa première saison à Houston, Hakeem Olajuwon a joué avec le père d'Amen et Ozar Thompson, Joe Thompson.
Vrai.
C'est faux, ça c'est. J'ai inventé.
Ça vous tourne.
J'ai inventé parce qu'à un moment, si je fais que des questions vraies. Il n'existe pas. Enfin, je pense que je vais pas vérifier.
Il a utilisé Joe Thompson. Ah, oui. Il a pris le premier prénom qui venait. Hein.
Joe Thompson, doit y en avoir 14 000 aux États-Unis, oui. Mais.
C'était pas le papa d'Amen et Ozar.
Après, si tu avais réfléchi 2 secondes, les âges, ça ne correspond pas vraiment.
C'est vrai.
Alex, après 17 saisons à Houston, Olajuwon a fait une dernière saison aux Clippers.
Non, faux. Toronto.
Toronto, c'était plus facile. Et ben, donc tout le monde est à 2 points. On enchaîne encore à des vrais faux. Olajuwon, Steve.
Oui.
Olajuwon a réalisé un quadruple double dans sa carrière.
Hakeem the Dream.
Oui.
Un quadruple double. Ouais, il me semble que c'est faux.
Et il me semble que c'est vrai pourtant. Martin, il a été élu MVP, MVP des finales et défenseur de l'année la même saison.
C'est vrai.
C'est vrai. En 1994, Martin prend la tête. Alex, il est le meilleur contreur de l'histoire de la NBA.
Vrai.
C'est tout à fait vrai, avec 3830 contres en 1238 matchs. Et donc Alex égalise. Et une dernière salve de questions. Steve, Olajuwon chausse du 52,5.
Et demi en plus. Française. Le et demi qui tue.
Alors moi je fais du 14, c'est 48,5, 15, 49,5, 16, 51,5, 17, 52,5, 17, ça me paraît possible. Il fait quoi, 2, 13 Hakim? Je veux dire vrai.
C'est vrai, c'est des panards de 34 cm.
Il y a la réflexion scientifique derrière la réponse.
34 cm de panard. Tu mets un coup de pied au cul, tu le sens passer.
Il y a Manu Ferrara aussi, il fait du 52,5.
Martin, il souffrait d'arythmie cardiaque.
Vrai.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alex, il est le mentor de Dwight Howard.
Vrai.
Rien à voir, mais c'est vrai aussi. 4 points pour Alex, 4 points pour Martin, 3 points pour Stephen. L'histoire des Houston Rockets. Qui est le meilleur passeur de l'histoire des Houston Rockets?
Harden.
James Harden, excellent. Sachez que toutes les stats individuelles sont détenues soit par Olajuwon, soit par James Harden. On devine un ancien joueur des Rockets, drafté en 14e position en 1983. Arrière, excellent passeur, excellent défenseur.
Kenny Smith.
Malgré une brillante carrière, il fait partie des nombreux joueurs dont le talent a été éclipsé par Michael Jordan. Mais, contrairement à beaucoup de ces joueurs-là, eh bien, il est champion avec Houston en 1995 après avoir quitté la franchise de Portland. C'est Clyde Drexler, c'est Stephen qui est parti en premier. Tout le monde est à 4 points.
Clyde de Glide.
On va voir si vous connaissez un peu le basket français dans ce spécial Houston Rockets. Avec quel joueur vainqueur de l'Euroleague 93, Clyde Drexler a-t-il joué à la fac?
Dominic Wilkins?
Non.
Vainqueur à la
David
fac à Houston
93, ouais, Euroleague 93,
River,
Limoges, non. Limoges.
Michael Young
qui appartient en
premier. Égalité. Ouais, mais... Simultané.
Simultané,
ouais.
Très bien. Un demi-point puisque vous êtes trois. Je ne peux pas donner zéro, sinon Martin est favorisé. Compris la réflexion?
Oui.
Vous n'avez rien compris?
Moi, ça me va, hein, perso, c'est favorisant.
Ouais, mais là, non, coup, ils ont un demi-point chacun. Bah, il y en a fini. Ah non, on n'a pas fini. Puisque j'ai rajouté des
la question.
Le Texas. Question culture générale, c'est important, toujours, c'est très important. Citez-moi une des 10 plus grandes villes du Texas.
Dallas.
Qui n'a pas de franchise NBA.
Austin.
Bravo. Les 3 plus grandes villes du Texas ont une franchise. Alors, en 1995. Donc l'année du titre de Houston. Quelle équipe avait le meilleur bilan de la saison régulière?
Ça, c'est la question dans ta tête, ça?
Non.
En 95,
c'est une vraie question, ça, c'est New York. Avec une vraie réponse. Non, en 95.
C'est Orlando.
Non, Orlando, c'est la finale, Phoenix. Mais c'est une équipe de l'Ouest.
Alors, ça, c'est les Spurs.
C'est les Spurs, ouais. Bravo.
Puisqu'il éclate Robinson pendant les playoffs, alors exactement. Tout le monde pense que Robinson va lui rouler dessus.
Les Spurs de David Robinson avec un bilan de 62 victoires et 20 défaites. Quel joueur des Rockets est Rookie of the Year en 2003?
Steve Francis?
Non.
Yao Ming.
Bien sûr, bravo Yao Ming.
Je voulais dire Francis, une fois que tu l'as dit, c'était bon, je l'avais.
Ok, et voici la question que j'ai ajoutée pendant
le
podcast. La question Mesmer. Est-ce que vous allez pénétrer mon cerveau?
Ouais, cerveau, ça va.
Question simple. Question simple, hein. Vous répondez vite avec ce qui vous vient à l'esprit. Fred Van Vliet est-il un grand joueur? Stephen Brun?
Non.
Martin Blondin?
Allez. Oui, comme ça je fais l'inverse de mes copains.
Stephen et Martin marquent un point.
Je voulais juste.
J'ai répondu parce que je connais.
Je voulais juste tenter l'inverse. Au cas où, tu vois, je tente le jackpot un peu. Parce que moi je suis d'accord, sinon c'est pas. Je suis d'accord avec toi.
La psychologie inversée en fait.
Là, j'ai tenté un coup. Hein. Faut
c'est un bon
le dire.
C'est un relou.
C'est un bon joueur.
C'est un bon joueur, mais tu peux pas compter sur lui.
Il est champion NBA.
Mais jamais là. Il
est champion NBA.
Il est champion NBA, mais est-ce qu'il est vraiment important? Ouais, quand même.
À Toronto, ouais.
Oui, un peu quand même.
On va faire le point avant la question multipoint, justement. Nous avons Stephen à 6,5, Martin à 6 et Alex à 6,5. C'est incroyable.
Okay. Alors, là, il y a un money time de ouf.
Alors là, il y a un money time. Alors, quand même, il fait parler de T-Mac. Ok. Ouais. On n'a pas dit un mot dans cette émission. Donc, dans l'ordre, chacun votre tour, en commençant par Martin, puisque c'est celui qui a le moins de points. Les clubs, les franchises dans l'ordre.
Hein, dans l'ordre.
Dans l'ordre.
Waouh. Ah ouais, ça change la donne.
Ah ouais,
bah, allez pas dans l'ordre, allez pas dans l'ordre. Allez pas dans l'ordre.
Bah Houston.
Donc Houston, c'est bon. Donc un point pour Martin. Alex.
Toronto.
Allez, Toronto, c'est bon. C'était la première. Steve.
Bon, je vais rester dans le Texas, je vais dire San Antonio.
San Antonio à la fin, c'est bon. Martin.
Orlando.
Orlando, parfait. Tu vois, t'aurais pu les faire dans l'ordre. ça devient plus dur, Alex.
Et c'est là où je vais bugger, ouais.
Ouais, moi aussi.
J'avais les quatre avant. Il en reste combien? Juste comme ça?
Il reste quatre clubs.
Hein? Quatre?
Ah ouais?
Trois franchises NBA. Et un à l'étranger.
Ah ok, on va rester sur la NBA.
À l'étranger, cherchez pas. Hein.
C'est en Chine, non?
Ouais,
à l'étranger.
C'est en Chine. Ouais. C'est en Chine.
Guangzhou, vas-y, comme ça. C'est jamais non. Sur un coup de chance.
Non, c'est pas ça. C'est ta réponse?
Ouais.
Non, alors c'est pas bon. Donc c'est ta... Steve, t'inquiète pas, t'as pas encore perdu.
C'est pour ça. Je sais qu'il galère aussi, donc c'est pour ça que je tente le chinois.
Avec un maillot, ah ouais. Avec un maillot.
Franchement, là, c'est dur. Hein.
Boston.
Boston, non, c'est pas bon. Martin. Après, tu peux tenter au hasard aussi. Ouais, hein, t'as une chance sur 30,
comme,
un peu moins
moi
maintenant.
Avec Banzou.
Une chance sur 25.
Si.
Non, c'est pas bon. Alors, il y avait les Knicks, les Pistons, les Hawks,
ah, les Pistons.
Et Qingdao en Chine.
Le reste, je l'avais pas, Pistons, mais les Pistons.
On est à 7,5 okay. Pour Steve. On est à 8 pour Martin. On est à 7,5 pour Alex. C'est incroyable. Et c'est, t'as pas encore gagné Martin parce que ça continue. Les questions multipoints. On fait la même chose avec Sam Cassell. Et cette fois-ci, Steve qui démarre.
Sam Cassell.
Ouais.
Houston.
Bah Houston, bien sûr. Alex.
Minnesota.
Minnesota, c'est bon. Martin.
New York.
New York. C'est pas bon.
Sam Cassell.
Sam Cassell.
Il a joué à Boston.
Il a joué à Boston. Il a joué à Boston. À toute fin, bravo. Ouais.
Il y a quand même. Il coach à Boston après, non ?
Il y a quand même la franchise où il a un peu brillé ouais. Aussi là-haut.
Clippers.
Les Clippers, bien sûr.
Oui.
Il m'en reste un, deux, trois, quatre.
T'as quatre encore ?
Quatre, ouais.
C'est à qui là ?
C'est à toi.
Les Bucks de Milwaukee.
Les Bucks de Milwaukee, bravo. Voilà. Attention, il a peut-être fait la diff sur cette réponse. Alex ?
Martin, vous
avez non, je suis éliminé.
New Jersey Nets.
Excellent, bravo, égalité de nouveau. Steve, il en reste deux.
Je sais qu'il a joué chez moi une saison. Les Mavs.
Ouais, les Mavs, c'est bon. Là, si tu trouves, franchement, si tu la trouves celle-là, je te donne le gain du quiz, même si tu seras à égalité avec Steve.
Bring me the crown, Phoenix Suns.
Bravo, c'est bon. Allez, c'est gagné. Bravo. Là, je suis impressionné. Ça mérite, ça mérite.
Bravo.
Tu fais la gueule, Steve. Eh ben, c'est pas grave, c'est comme
pas
ça.
La gueule,
en tout cas, je sais qui regarde. Il a compris des choses.
Ah non, 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 non. Enlève le générique. T'as triché. Je ne supporte pas la triche, donc c'est ça.
C'était ma dernière semaine. Tu pourrais être grand seigneur quand même, Pierrot.
RMC Basket Time.